1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Super. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? Il y avait l'alerte rouge cette nuit, je m'étais dit chouette, mais maintenant je suis dispensé. Et ben non. J'allais justement poser la question, savoir si vous avez lu Matthieu 1 et 2. Qui c'est qui l'a fait? Non, je ne vais pas lui faire lever la main. Je ne vais pas vous mettre en difficulté, il n'y a pas de souci. Voilà, après avoir plonger nos regards pendant plusieurs mois sur qu'est-ce que c'était le royaume de Dieu. On pense que c'est important aujourd'hui de focaliser sur le roi des rois, sur Jésus. Et on a choisi de prendre l'évangile de Matthieu et de le parcourir comme ça, dimanche après dimanche, sur plusieurs semaines, et de voir qu'est-ce que cet évangile nous dit sur Jésus. Vraiment, comme l'a dit David, je le répète, on vous encourage à méditer, à lire cet évangile, qu'on puisse le faire ensemble. Ça peut être aussi l'occasion de partager en groupe de vie sur ce sujet, d'approfondir certains points, de partager comment Dieu nous parle au travers du texte, quelle application on peut retirer pour nos vies, et ça c'est important. Et vraiment, j'aimerais vous encourager aussi à l'aborder d'une certaine manière, avec un certain angle de vision, on va dire. Je l'ai dit, c'est en cherchant à en apprendre plus sur Jésus. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il a traversé comme épreuve? Est-ce que c'était des épreuves similaires aux nôtres? Qu'est-ce qu'il a fait face à la tentation? Est-ce qu'il s'est reposé? Comment est-ce qu'il était avec les personnes qui l'entouraient? Qu'a-t-il dit? Comment est-ce qu'on aurait réagi à ce qu'il a dit si c'était adressé à nous directement? Est-ce qu'il nous ressemble? Est-ce qu'il est capable de compatir à nos faiblesses? Enfin voilà, tout ce genre de questions à vous poser quand vous abordez ces textes et que vous avancez livre après livre. On va prier. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci parce qu'elle est la vérité, merci parce qu'elle est vie, merci parce qu'elle est vivante et parce qu'elle nous parle, parce qu'elle nous enseigne. Et vraiment ce matin, je te prie de nous aider Seigneur, Saint-Esprit, à la comprendre, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, que tu ouvres les yeux de notre intelligence et que nous puissions accueillir Seigneur ce que tu veux nous dire ce matin, ce que tu as à nous dire au travers de ces textes que nous allons lire. En ton nom Jésus. Amen. Alors pour ceux qui ont lu les deux premiers évangiles, le premier commence avec la généalogie de Jésus. Alors je vous fais grâce ce matin de la lecture de la généalogie de Jésus, bien qu'elle... Non, je vais écorcher la moitié des prénoms qu'il y a dans la généalogie, ça va être une catastrophe. Bien qu'elle ne soit pas inintéressante pour autant, bien au contraire. Sa naissance s'inscrit dans une histoire. Celle d'un peuple, le peuple d'Israël, qui attend la venue d'un roi sauveur, qui attend la venue d'un Messie, qui a été prophétisé à plusieurs reprises. Et c'est ce qu'on va regarder, en fait, hein, dans les semaines qui vont venir et dans les lectures qu'on va voir au travers de l'évangile de Matthieu. Mais j'ai noté des petites choses intéressantes. Dans sa généalogie, vous lirez qu'il y a des femmes représentées, ce qui n'est pas commun pour l'époque, et qui plus est, non juives. La mention de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Bathsheba, la femme d'Uri, nous rappelle que des non-juifs ont été inclus dans le plan de Dieu depuis le commencement, depuis le tout début. Et on peut aussi voir, quand vous lirez, si vous ne l'avez pas lu, hein, je vous encourage à le faire quand même, hein, que certains des ancêtres royaux sont liés à des situations moralement répréhensibles, pas tip-top. Je prends l'exemple de David et de Bathsheba, la femme d'Uri qui est nommée là, vous connaissez l'histoire. Hein. David s'est épris d'amour pour Bathsheba, qui était la femme d'Uri, un de ses soldats, et il l'a envoyé au front pour le faire mourir, pour pouvoir épouser Bathsheba. Donc c'est assez sordide. Mais malgré ça, Dieu a agi en leur faveur. C'est pour sauver des pécheurs qu'il a envoyé son fils. Et Dieu a un plan, j'aimerais dire, et rien ni personne ne pourra l'empêcher de l'accomplir, ni les circonstances de nos vies, heureuses ou malheureuses, ni nos erreurs, ni nos manquements, rien. C'est lui le maître absolu. C'est lui le Dieu souverain que rien ne déstabilise ou n'arrête. Si vous avez lu le texte qu'on va lire, vous avez dû voir que des prophéties qui ont été annoncées à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament s'accomplissent inexorablement l'une après l'autre. Dieu est à l'œuvre et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Alors on va lire quand même, hein. Ensemble, on va lire à partir du verset 18 au verset 25. Donc ce passage, il vient juste après la généalogie qui précède, comme je viens de le dire, et la généalogie qui nous parle d'une succession de naissances d'Abraham jusqu'à Jésus. Mais là, on est face à une naissance comme jamais il n'y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. On va lire donc Matthieu 1 à partir du verset 18 et on va lire dans un premier temps jusqu'au verset 25. J'espère que vous avez vos Bibles ou vos téléphones parce que je n'ai pas prévu de diaporama ce matin. Donc il faudra prendre le texte ou m'écouter. Merci Daniel. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Quelle histoire ! Le verset 18 commence avec un premier constat. Quand on lit « Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, avant leur union, elle se trouva enceinte. » Il y a un problème. Avant leur union. Ça signifie quoi ? Ça signifie que Joseph n'avait pas encore connu Marie. Plus littéralement, je dirais, Joseph n'avait pas encore eu de relation intime avec elle. Vous savez tous comment on fait des bébés. Il n'y a pas de trop jeunes enfants. Je ne voudrais pas embarrasser des parents s'ils leur posent la question juste après. Pourtant, nous lisons que Marie s'est retrouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Alors nous, on le sait, mais Joseph ne le sait pas. Et clairement, pour Joseph, ça pose un problème. Et on le voit au verset 19. S'il n'a pas eu de relation intime avec elle, c'est que Marie, elle était enceinte, car elle était allée vers un autre homme. Il n'y a pas 36 solutions. Et parce qu'il était bienveillant et que sans doute, et malgré la situation, il aimait Marie et qu'il ne voulait pas lui faire du tort, il lui propose de rompre secrètement avec elle. Il est fiancé, et il lui propose de rompre. Il y a quelque chose de solennel quand même, de légal. Et ça souligne sans équivoque que ce n'est pas Joseph qui a mis Marie enceinte. Ça paraît évident, mais je tiens à le souligner. Joseph est choqué par cette situation. Si Marie est enceinte, ce n'est pas à cause de lui. Et clairement, si on voit qu'il veut à un moment donné rompre, c'est clairement que ce n'est pas à cause de lui, mais au Saint-Esprit. Et Dieu intervient au travers d'un ange qui parle à Joseph. Il lui explique que l'enfant qu'elle porte n'est pas d'un autre homme. L'ange rassure Joseph. Il lui dit que Marie n'est pas allée vers un autre homme pour concevoir cet enfant. Il lui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur. Elle n'est pas coupable. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Et c'est la deuxième fois que cela nous est rapporté dans ce passage. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Il y a eu une action divine. Un autre signe qui atteste que cet enfant a été conçu de façon surnaturelle, c'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par le prophète. On le lit au verset 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par le prophète. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas Joseph qui fait en sorte d'accomplir la prophétie, ce n'est pas Marie qui fait en sorte d'accomplir la prophétie, c'est Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant qui orchestre chaque étape de la naissance de Jésus. C'est son action divine, c'est son action à lui. Et même si on continue au verset 25, il nous est dit que Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Marie est déjà enceinte et Joseph ne va pas aller vers elle avant que l'enfant ne soit né. À plusieurs reprises, on voit que Joseph n'y est pour rien dans la conception de cet enfant, mais qu'il y a eu une intervention divine. Pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce que le texte le fait, il se répète. Parce que c'est capital de comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une femme vierge qui est tombée enceinte, mais de l'intervention de Dieu par l'action du Saint-Esprit pour concevoir cet enfant dans le ventre de Marie, de façon surnaturelle et extraordinaire, sans l'intervention d'un homme, sans l'intervention de Joseph. Marie, sa mère, était la mère naturelle de Jésus. Et c'est Dieu le Père, par l'action du Saint-Esprit, qui va concevoir cet enfant, qui va créer cet enfant. Et c'est une fondation très importante pour tout le reste de l'Évangile, et notamment pour deux choses que j'aimerais qu'on puisse aborder ce matin. C'est une fondation pour comprendre l'œuvre de Jésus. Comment est-ce possible qu'un homme puisse mourir pour des millions ? Comment est-ce possible ? Parce que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Dieu homme. Cette naissance surnaturelle est rendue possible, elle rend possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité en une seule personne. Et c'est le moyen que Dieu a utilisé pour faire venir son Fils dans le monde. On le lit dans Galates 4, au verset 4. Facile à retenir, 4 et 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. On aurait pu imaginer que Dieu puisse faire autrement. Il aurait pu donner à Jésus l'aspect d'un homme dans le ciel, et puis l'envoyer sur terre, sans l'intervention d'un parent humain. Il aurait pu faire comme ça. Mais je pense que ça aurait été difficile pour nous de voir comment Jésus aurait pu être pleinement humain, comme nous le sommes. Ou Dieu, il aurait pu faire en sorte que Jésus vienne au monde avec deux parents humains, un père, une mère, et que sa nature divine lui soit donnée après, à un moment donné, au début de sa vie. Mais alors, je pense qu'il nous aurait été difficile de voir que Jésus était pleinement Dieu, puisque son origine aurait été semblable à la nôtre, à tous égards. Alors on peut comprendre pourquoi Dieu a agi ainsi. Une mère et l'intervention divine du Saint-Esprit pour que nous comprenions que Jésus est à la fois pleinement homme et à la fois pleinement Dieu. Nul n'est son égal. Personne d'autre sur terre depuis la création, avant ou dans le futur, n'a été ni ne sera conçu de cette manière. Il est unique. Et ça, c'est très important à saisir, à accepter et à comprendre. Il est unique. Dans son humanité, Jésus va naître. Et il va connaître toutes les étapes de développement dans le ventre de sa mère. Il va endurer la naissance et être cet enfant qui a besoin d'affection, petit, fragile. Je regardais Véro ce matin avec Eva. Je me disais, mais punaise, Jésus, il a été comme cet enfant. Il a été comme cet enfant, petit, fragile. Et on va voir d'ailleurs, dans la suite du texte, comment Dieu il agit pour le protéger. On va voir ce que Hérode va manigancer et Dieu va agir pour protéger. Il va parler au travers d'anges à Joseph et il va lui dire « pars ». On va le voir tout à l'heure. Et on va découvrir aussi au fil des chapitres qu'on va lire dans l'évangile de Matthieu que Jésus a enduré la fatigue, qu'il a enduré l'angoisse, la tristesse, la tentation, etc. Et il a été capable de compatir à tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons traverser au cours de nos vies. Et il serait intéressant aussi de voir comment Jésus a réagi face à tout ça. Nous verrons aussi en Jésus le Dieu des miracles, des guérisons, on verra le libérateur, on verra l'enseignant ultime, le sauveur des pécheurs et bien d'autres choses encore. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est un paradoxe, c'est un mystère de la parole que nous devons embrasser. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut comme il le veut. Et on ne pourra jamais tout expliquer de façon rationnelle. Il nous faut être à la bonne place. Il y a Dieu le Créateur. Et il y a nous. Et toutes choses sont à lui. Un autre point fondamental à relever au travers de cette naissance, c'est que Jésus, n'ayant pas pour père biologique Joseph, n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam, ce qu'on appelle le péché hérité. C'est-à-dire qu'Adam, après la création, avec Ève, ils sont tombés, ils ont péché. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? la mort est venue, le péché est entré. Et depuis, chaque homme qui naît après Adam et femme qui naissent après Adam sont condamnés à mourir, ont une nature qui est corrompue. On peut le lire dans Romains 5, les versets 12. Le verset 12, et après on va lire 18 et 19. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si on y est un peu plus loin. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc par la désobéissance d'un seul, tous ont été rendus pécheurs. Et Jésus ne descend pas d'Adam exactement de la même manière que tous les autres êtres humains. Cela nous permet de comprendre pourquoi Jésus est exempt de culpabilité légale et de la corruption morale qui affecte tous les autres êtres humains. Dans Luc 1, au verset 35, il est dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, par la Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jésus n'a pas hérité de cette nature, pécheresse, ni de son père, ni de sa mère, parce que le Saint-Esprit est intervenu de façon miraculeuse dans la conception de cet enfant. Il nous est dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi. Le Saint-Enfant, c'est pourquoi. Pourquoi ? Parce que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la puissance du Très-Haut qui va intervenir dans la conception de cet enfant. Ici aussi, nous voyons l'intervention divine de Dieu. Voilà pourquoi cet homme va pouvoir mourir pour des millions. Pour des, peut-être même beaucoup plus, des dizaines de millions, des centaines de millions. Donner sa vie, prendre notre condamnation à cause du péché, parce que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Dieu homme. De nature terrestre et divine, saint et sans péché. C'est, j'aimerais dire, peut-être le sacrifice parfait. Et donc, c'est des choses importantes à comprendre. J'enfonce sans doute des portes ouvertes, mais c'est ce que le texte nous dit ce matin et je pense que c'est important de partager. Une autre fondation importante pour tout le reste de l'Évangile que nous apporte donc cette naissance surnaturelle, divine, c'est la louange. On comprend pourquoi plusieurs vont se prosterner devant la personne de Jésus pour l'adorer, quand on va continuer à lire l'Évangile, sans qu'il soit accusé de blasphème envers Dieu. Parce que Jésus n'est pas un homme comme les autres, ce n'est pas un homme comme les autres, parce qu'il est d'origine divine. Et tous ne vont pas comprendre, notamment les pharisiens. Ça m'a fait penser à un passage de Jésus des années plus tard, où il est devant le Sanhédrin, juste avant la crucifixion, c'est à la fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, les versets 63 et 68. 63 et 68. Et donc, il y a le souverain sacrificateur qui est là. Il se lève et il dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien, de quoi témoigne-t-il contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur lui dit, « Je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et il dit, « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème, qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il est passible de mort !» Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, ils lui donnèrent des coups de poing, d'autres le giflèrent en disant, « Christ, devine, dis-nous qui t'a frappé !» Ceux qui n'acceptent pas l'origine divine de Jésus ne se prosterneront pas devant lui. Mais ils l'accuseront de blasphème, ceux qui le font. Si vous ouvrez par contre les yeux sur l'origine divine de Jésus, si vous acceptez que vous recevez cette vérité qu'il est le Fils de Dieu, alors vous ne pourrez que vous incliner devant lui pour l'adorer et le louer. Il est le Dieu fait homme pour accomplir le dessein de Dieu. Sauvez les hommes et les femmes pécheurs qui le reconnaîtront tel qu'il est vraiment et qui accepteront ce qu'il a fait pour eux. D'ailleurs, il est intéressant de regarder maintenant la suite du texte de Matthieu et de regarder plus précisément comment ont réagi les différentes personnes qui vont entendre parler de la naissance de Jésus. Et on va lire, si vous avez vos Bibles, donc le chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Tu parles. On connaît l'histoire, hein, mais bon. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite de leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Entre parenthèses, intervention divine à nouveau, ils sont avertis en songe de ne pas revenir vers Hérode. Parce qu'Hérode, bien sûr, veut du mal à Jésus le roi. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe, deuxième intervention à Joseph, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parte, ce que je parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Encore une parole prophétique qui s'accomplit. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaus, Archélaus, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, à nouveau, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse une autre parole prophétique qui a été annoncée par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Vraiment, on voit Dieu qui est à l'œuvre, étape après étape. Et donc là, j'aimerais qu'on s'intéresse particulièrement à la réaction des personnes, des différents protagonistes de cette histoire, de ce texte, à l'annonce de la naissance de Jésus, le roi. Quand Hérode entend cette naissance, il est troublé. Il est troublé. Quand il entend parler des mages qui cherchent où est le roi des Juifs qui vient de naître, il se sent profondément menacé. C'est lui, le roi des Juifs, désigné par Rome. Et il a vraiment peur et va se mettre à manigancer et à mentir. Il va chercher à tuer l'enfant et va faire quelque chose d'atroce. On l'a lu, hein. Il va faire tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans à Bethléem. En Hérode, quelque part, on peut voir des personnes assoiffées de pouvoir, peut-être certains partis politiques qui ne renonceront pas volontairement au pouvoir au profit du roi Jésus. Côté extrême. Et dans une bien moindre mesure, peut-être aussi un peu nous-mêmes, quand avant notre conversion, nous nous inquiétons que Jésus dût devenir le roi de nos vies. Nous nous attachions à notre trône. Et donc ça, c'est la première réaction d'une personne. Elle règne, le roi arrive, Jésus, et elle a peur de perdre son trône, de laisser son trône. Un autre comportement assez surprenant, c'est celui des sacrificateurs et des scribes. Alors on lit au Matthieu 2, verset 4, « Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Je ne sais pas vous, mais c'est assez hallucinant, c'est assez incompréhensible ce qui se passe. Vous avez les principaux sacrificateurs et les scribes, ceux qui connaissent les Écritures. Et ils font d'ailleurs très bien leur travail. Hérode leur pose la question et ils vont répondre à Hérode en lui donnant la prophétie en Michée 5. Siècle avant. Ils font partie du peuple d'Israël qui attend la venue du Messie. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Ils retournent à leurs occupations quotidiennes. Ils n'accompagnent pas les mages, ils ne disent rien pour en savoir davantage. Ils répondent et ils se taisent. Et leur silence et leur inaction est accablant au vu de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire pour toute l'humanité. Les mages venaient de pays lointains parce qu'ils avaient vu l'écriture de Dieu dans les étoiles. Mais les bergers même d'Israël, ces sacrificateurs, ces scribes, ne sont même pas donné la peine de les accompagner alors qu'ils connaissaient les prophéties des Écritures. Et 33 ans plus tard, ce sont les mêmes qui vont demander à Pilate de le crucifier en prétendant qu'ils n'ont d'autre roi que César. Voilà ce qui se passe quand vous ne reconnaissez pas la divinité de Jésus. Vous vous passez de lui. Vous ne pouvez pas l'adorer. Vous ne vous intéressez pas à lui. Et vous voulez le crucifier. Et puis il y a les adorateurs itinérants. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand les mages ont vu l'étoile, ils ont fait ce que font tous ceux qui sont appelés par Dieu, tous ceux à qui Dieu ouvre les yeux. Ils se sont réjouis et ils sont allés trouver Jésus pour se prosterner et l'adorer. Car il est un roi digne de tous les trésors. Au verset 11, on voit tous ces trésors qu'ils ont déposés aux pieds de Jésus, se sont prosternés et lui ont offert ses présents. Parce qu'il était leur trésor. Ils ont vu l'intervention divine dans la naissance de Jésus. Et si vous acceptez la véritable nature de Jésus, vous ne pourrez que vous incliner devant sa majesté et l'adorer. Il est loin. Il est celui que Dieu a donné pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est celui qui a porté vos meurtrissures, vos maladies, votre péché en donnant sa vie 30 ans plus tard sur la croix. Il est capable de compatir à nos faiblesses. Il est celui qui a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Il est celui qui veut nous montrer le Père. Il est le Seigneur de justice, le roi divin qui n'avait pas besoin d'apparaître dans l'éclat de sa toute-puissance parce qu'il était déjà roi, comme nous l'a très bien rappelé la semaine dernière David. Il est celui qui s'est abaissé et qui est venu non pour être servi, mais pour nous servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est celui qui avant Abraham fut, qu'avant qu'Abraham fut, était, pardon. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Il est la source d'eau vive, il est le pain de vie, il est la lumière du monde, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui mange à la table des pécheurs, car c'est eux qu'il est venu appeler. Il est celui qui dit à la femme adultère, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Il est celui qui pardonne. Il est le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui a inauguré pour nous, par son sang, un chemin nouveau et vivant vers le sanctuaire. Il est l'agneau immolé. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est celui qui reviendra sur les nuées, que tout homme verra, même ceux qui l'ont percé. Alors nous le verrons face à face et nous tremblerons à ses pieds. Alors nous le verrons face à face et nous tomberons à ses pieds pour l'adorer pour l'éternité. La naissance de Jésus n'est comme aucune autre. Aucune. Elle nous montre que Dieu est à l'œuvre, qu'il accomplit le plan qu'il a prédestiné d'avance. Il nous donne son Fils, Jésus-Christ, né d'une femme, Marie, et de l'œuvre du Saint-Esprit, à la fois pleinement homme et capable de compatir à nos souffrances, et à la fois pleinement Dieu et capable d'offrir sa vie pour nous racheter, nous réconcilier avec Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais nous rappeler ce matin au travers de ce texte. Et je pense que c'est un bon moment pour prendre la Sainte Cène ensemble. pouvoir partager, nous souvenir ce que Jésus a fait, tout en nous rappelant que si Jésus a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce qu'il est de nature divine. Il est pleinement humain et il est pleinement Dieu. Il est comme nul autre. Il n'y a personne d'autre comme lui. Il n'y aura jamais quelqu'un comme lui. Jamais. Il est le Fils de Dieu. Il est le Christ. Il est loin. Il est Jésus, le Sauveur, le Libérateur. Amen. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont été désignées. Alors, qui est-ce qui aimerait venir partager, faire passer le pain et le vin? Les jeunes, peut-être? Bon, t'es jeune, Henri. La famille Bastien. Non, merci, Anthony. Voilà. Voilà, deux, trois. Amen. Merci, Père, pour ton amour infini. Merci pour ton plan parfait. Merci parce que tu es souverain sur toutes choses. Merci parce que tu es en contrôle, Seigneur, et que tu accomplis ton plan jour après jour. Année après année, tu sais ce que tu es en train de faire, Seigneur. Et c'est toi qui as tout pouvoir, c'est toi qui es au-dessus de tout. Merci pour Jésus que tu as envoyé. Merci pour ton Fils, totalement homme, totalement Dieu, qui était le seul capable d'offrir sa vie pour nous. Le seul capable de marcher sur cette terre, de compatir à nos souffrances, d'être notre modèle, de nous montrer comment marcher sur cette terre, de nous montrer comment faire face à la tentation, comment faire face, surmonter les difficultés, comment avancer, comment témoigner, comment pardonner, comment relever, comment guérir, comment délivrer. Tu étais le seul et tu étais capable de faire ça parce que tu étais totalement homme et totalement Dieu. Merci Jésus parce que tu es allé jusqu'au bout. Merci parce que tu as accepté la souffrance, tu as accepté qu'on te crache au visage, qu'on te gifle, qu'on te fasse du mal. Tu as accepté de donner ta vie pour nous. Parce que toi seul pouvais le faire, Seigneur. Tu étais notre unique sacrifice qui pouvait nous rendre la liberté, qui pouvait nous racheter. Merci parce que tu as donné ta vie, Seigneur, et nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait. Nous voulons recevoir dans nos vies encore ce que tu as fait, nous rappeler que tu as versé ton sang, que tu as donné ta vie pour nous, pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous réjouir de ta présence, pour que nous puissions nous prosterner devant toi, pour que nous puissions t'adorer, parce que tu es magnifique, parce que tu es Dieu. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire, Saint-Esprit. Amen.